pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, la multiplication des manifestations des jeunes qui s'inquiètent de leur avenir et notamment des conséquences de la dégradation de l'environnement qui conditionne leur futur devrait inciter chaque niveau de la société à réagir. Transmettre un monde meilleur aux générations futures, c'est le principe défendu depuis plus d'une vingtaine d'années par la Fondation de l'économie positive qui accompagne des projets dans une quarantaine de pays. La troisième édition du Positive Forum Économie réunit cette semaine plus de 50 leaders mondiaux et décideurs sur le thème de l'engagement au service des générations présentes et futures. Et c'est là, dans les locaux du ministère français des Affaires étrangères, où se déroule ce forum, que nous avons installé notre studio.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Jacques Attali.
Bonjour.
Vous êtes économiste, écrivain, vous avez conseillé François Mitterrand pendant plus de 10 ans et depuis vous murmurez à l'oreille des présidents français et d'autres pays d'ailleurs. Vous avez conçu ce concept d'économie positive il y a une vingtaine d'années, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ?
L'économie positive, c'est tout simplement l'économie au service des générations futures. Ce que nous devrions faire chacun d'entre nous, ne serait-ce que pour nos enfants ou petits-enfants, et ce que nous devrions faire pour tous les habitants vivants, tous les vivants, pas seulement humains, de la planète, parce que mais ce sont comme nos enfants et nos petits-enfants. Et parce qu'on y a intérêt personnellement. Ça fait plus longtemps même que 20 ans que j'essaie d'expliquer dans mes livres que le modèle de développement que l'humanité a choisi depuis à peu près 2000 ans est un modèle fondé sur l'artificialisation du vivant. Je mets du temps à me faire comprendre sur ce point. L'artificialisation du vivant, transformer un service en un objet. Et l'artificialisation du vivant a eu des effets extraordinairement positifs, mais à un certain moment, ça a atteint des limites insupportables. Et nous sommes au moment où l'artificialisation des sols, l'artificialisation de la nature, l'artificialisation du corps humain atteint des limites qui sont suicidaires. Et c'est à cela que notre fondation, parmi beaucoup d'autres, essaye de répondre, à la fois par des actions d'évangélisation, de plaidoyer, comme nous le faisons ici, mais aussi sur le terrain, en agissant pour développer ce qu'on appelle les entreprises positives et pour aider les territoires, les pays, les entreprises existantes à devenir davantage positives, c'est-à-dire à se préoccuper de lutter contre l'excessive artificialisation du vivant et créer les conditions que le monde reste vivable, pas seulement pour les humains, mais pour toutes les formes de vie.
Alors, pour ce forum, vous avez choisi le thème de l'engagement. On est donc entouré de personnes engagées avec nous. À vos côtés, Hugo Viel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le secrétaire général de Climate. Les générations futures, la positive économie, c'est pour vous. Qu'est-ce que vous pensez de ce concept et de ce que vient dire Jacques
Attali ? Oui, en effet, économie positive, après, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça signifie derrière ? C'est quoi la société qu'on va nous proposer ? Qui de mieux que la jeunesse pour faire le monde de demain ? Et on essaye aujourd'hui justement de se mettre dans l'idée que le monde, on arrive à la fin d'un monde en fait, dont Jacques parlait juste avant, qui artificialise les sols, qui artificialise la nature. Et qu'est-ce que ça va devenir le monde de demain ? Comment on le crée ? C'est-à-dire quelles entreprises ? Est-ce qu'on va toujours s'intéresser au profit des entreprises ou alors à leur impact dans la société, à leur impact pour les gens, sur les gens ? Est-ce que on va continuer à utiliser la nature plutôt que de vivre avec elle ? Est-ce qu'on va tout simplement arrêter d'être tous petits individus dans un grand monde et se comporter comme une grande famille, comme tout simplement des gens qui vivent tous ensemble comme une grande communauté et comme la nature en fait, parce qu'on fait partie de la nature, on est la nature.
Alors Jacques Attali, vous entendez Hugo Viel, c'est pour lui finalement, entre autres, que vous avez créé ce concept d'économie positive.
Bien sûr.
Qui, vous dites souvent, doit être un moyen de remettre le long terme en fait en perspective chez les décideurs politiques, etc. Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ils n'entendent pas ce discours ?
Non, ce n'est pas que les politiques, c'est chacun d'entre nous.
Non, mais même les chefs d'entreprise, etc. Il y a des gens qui ont plus d'impact que d'autres.
Mais chacun d'entre nous, dans notre vie privée, on est tous préoccupés par l'instant. Bon, parce qu'on ne sait pas si on ne sera pas mort dans 5 minutes. Et ensuite, parce que c'est la nature humaine de s'intéresser à l'instant et de procrastiner. L'avenir, ça, c'est trop loin. Donc nous sommes tous concernés à ça. Nous sommes concernés comme citoyens, comme consommateurs, comme électeurs, comme épargnants. À toutes les dimensions de notre vie, nous y sommes concernés. Et les dirigeants ne sont que la partie visible de l'iceberg de notre propre nature profonde. Si chacun d'entre nous vivions autrement, en tenant compte dans chacune de nos visions, quel impact ça a sur les générations futures, le monde serait différent. Les dirigeants ne sont que les reflets de notre propre turpitude.
Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il y a besoin d'un sursaut de maturité quand même ?
Il y a besoin de ça parce que si nous ne prenons pas en compte le long terme, nous, c'est le long terme qui va nous prendre en compte. Et c'est le long terme qui va s'imposer à nous. C'est le long terme qui va décider. Et il décidera forcément d'une façon totalitaire. Le grand enjeu d'aujourd'hui, en particulier dans l'Europe, qui a toutes les qualités et les défauts, mais qui est en avance sur la démocratie, le grand enjeu pour l'Europe, c'est serons-nous encore des démocraties ? Pour qu'on le soit, il faut qu'on trouve une réponse démocratique aux enjeux de long terme, c'est-à-dire que nos démocraties, nos entreprises soient capables d'intégrer le long terme dans leur processus de décision, comme nos entreprises soient capables d'intégrer le long terme, comme nos vies personnelles soient capables. Parce que si nous ne le faisons pas, eh bien on passera à des dictatures, qui ne feront pas mieux. Parce qu'une dictature, par nature, ça se trompe, et puis ça oublie une dimension essentielle de l'espérance humaine, qui est la liberté. Mais on passera à des dictatures, parce que les problèmes dont vous parliez tout à l'heure, sont tous les trois, sont si urgents, qu'à un moment, on dira, écoutez, ça suffit, hein, le bavardage, ça suffit, faut passer aux actes.
Alors, le Parlement européen a décrété justement le 28 novembre dernier l'urgence climatique. Lamia Essemdali, bonjour. Vous êtes présidente de Sea Shepherd France depuis une dizaine d'années. Sea Shepherd, une association créée par Paul Watson en 1977 pour défendre la biodiversité marine avec des méthodes, là aussi, très engagées. Comment vous réagissez aux propos de Jacques Attali ?
Je pense que, en fait, ce qu'il s'agit de faire là, c'est de changer vraiment de paradigme. Donc, j'entends dans ce que dit Jacques la nécessité d'une révolution du mode de fonctionnement. Pour moi, l'économie positive, c'est une économie qui replacerait le réel au centre de tout. Là, on est dans une économie, dans une société qui place le fictif et le mythe au centre de tout. La seule chose qui soit réelle, finalement, c'est le monde naturel, c'est l'oxygène qu'on respire, c'est le vivant, c'est les rivières, c'est les forêts, c'est l'océan. Tout le reste, ça n'existe que dans l'esprit humain. Les nations, les entreprises, la monnaie. Et on a mis au service de ce mythe commun tout ce qui est réel. Et c'est là qu'on a, je pense, rompu un pacte. Et c'est là que c'est ça qu'il faut complètement repenser. Donc, remettre le mythe au service du réel et surtout se replacer, nous, en tant que partie intégrante du vivant et certainement pas maître et possesseur de la nature, revenir à une vision biocentrique par opposition à une vision anthropocentrique. Et en ce sens, c'est vrai que souvent, quand on est engagé dans la question environnementale, parfois, on se voit accusé d'un problème de priorité. Donc, attendez, il y a quand même des gens qui meurent de faim, il y a des emplois à préserver. Et ça, encore une fois, c'est parce qu'on place le mythe avant le réel. Le président des Açores, tout à l'heure, nous disait qu'on ne peut pas dire à un pêcheur qu'il ne peut plus pêcher parce qu'il n'y a plus de poissons. Mais je suis désolée.
Le jour où il n'y aura plus de poissons, il ne pourra plus pêcher.
Non seulement il ne pourra plus pêcher, mais nous ne serons pas là pour le voir. Parce qu'un océan sans poissons, c'est un océan mort, c'est un océan sans nous. Et même par-delà cette vision utilitariste de sauver l'océan parce que sinon on va mourir, je pense que on est en train de perdre notre âme aussi à détruire le vivant. On a besoin de l'océan pour vivre d'une façon biologique, mais on a besoin de l'océan aussi pour rêver, pour être ce que nous sommes, pour notre âme. Et donc moi, j'ai pas attendu d'avoir un enfant pour m'engager en écologie. J'avais même peur que ça me freine. Mais aujourd'hui, vraiment, j'ai encore plus peur du monde dans lequel elle va grandir. Et quand on me dit finalement, si les baleines disparaissent, qu'est-ce que ça peut faire? Et en fait, je pense vraiment qu'on ne sera pas là pour voir un monde sans baleines. On ne sera pas là parce que si on n'arrive pas à sauver des animaux aussi charismatiques que les baleines, on ne sauvera rien d'autre dans l'océan. Et tout à l'heure, on a fait l'apologie de la Norvège qui apparemment est exemplaire à bien des niveaux. Mais je n'ai pas eu le temps de le dire sur ce, donc je le dis maintenant. Moi, j'applaudirai dès demain la Norvège le jour où elle cessera d'être le pays qui tue le plus de baleines au monde. Ils ont augmenté de 30% leur quota de baleines l'année dernière. Donc voilà, c'est des paradoxes comme ça qu'il faut lever. Et voilà.
Ouais. Jacques Attali, comment est-ce que vous réagissez
J'aurais mieux dire que ce qui vient d'être dit.
Oui, mais en même temps, ce paradoxe, c'est-à-dire, par exemple, dans ce forum que vous présidez, la Norvège est mise à l'honneur.
Oui, ça prouve que l'indicateur n'est pas complet. On a fait un indice des pays, qui est un indice qui mesure 46 paramètres. Peut-être qu'on intégrera un paramètre complémentaire pour tenir compte de la façon dont les pays se comportent à l'égard de la mer, qui me paraît évidemment essentiel. Merci de le faire remarquer.
Aurélien Barou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien au CNRS, vous êtes enseignant à Grenoble. Vous vous êtes fait connaître en septembre 2018 en publiant avec l'actrice française Juliette Binoche dans le journal Le Monde une tribune signée par plus de 200 personnalités sur le thème « Le plus grand défi de l'humanité ». Vous êtes venu ici à ce forum témoigner de votre engagement. Donc ce forum qui est sous le patronage de la présidence de la République, qui est donc présidé par Jacques Attali, qui nous parlait de son concept donc, d'économie positive. Est-ce que tout ça vous semble cohérent? Est-ce que c'est, par exemple, dans des forums comme ici que l'on peut faire avancer les choses, avancer les débats?
Oui, en tout cas, je salue Jacques Attali pour son courage, parce que je suis connu pour être un peu un trublion et pour un franc-parler assez radical. Moi, je crois que voilà, il faut échanger, il faut tenter de se confronter avec bienveillance, parce qu'on ne gagne jamais rien à l'affrontement cynique, narquois et déshumanisant de l'autre. Mais effectivement, je suis d'accord avec Lamia. Je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est littéralement un changement de paradigme, de rapport au monde, d'habiter l'espace, enfin on peut appeler ça comme on veut, mais c'est bien de la même chose qu'il est question. Et pour ça, les symboles sont fondamentaux. J'aime beaucoup ce qu'elle a dit, parce qu'on peut le voir par exemple aussi dans l'épisode de la forêt cet été. Vous voyez, c'est très intéressant ces feux de forêt. Déjà au niveau de la couverture médiatique, on s'est rendu compte que la forêt amazonienne nous émouvait beaucoup, la forêt sibérienne un peu moins, la forêt subsaharienne, absolument pas. On n'a même pas entendu parler voilà, de ces feux-là. Et puis, j'ai lu dans un certain nombre de journaux des articles quand même un peu émotifs, émus en tout cas, d'un certain nombre de chroniqueurs qui disaient quand même le poumon de la planète brûle. Mais tant qu'on continue de penser la forêt comme un poumon, on n'a pas commencé à comprendre le problème. C'est bien l'ennui de la réifier et de considérer que la forêt est un organe qui remplit une fonction pour l'humanité. La forêt, ce n'est pas quelque chose qui est utile au monde, c'est le monde en tant que tel. Tant qu'on n'a pas compris ça, on est toujours dans cette logique réificatrice du vivant qui, effectivement, est aujourd'hui à l'œuvre pour l'essentiel des populations animales, qui a quand même été très longtemps à l'œuvre vis-à-vis des populations humaines colonisées, qui l'est d'ailleurs encore dans une certaine mesure. Et par conséquent, il y a ici quelque chose de fondamental qui se joue. Et je dis parfois avec un peu de provocation que notre chance, c'est que nous ne nous en sortirons pas indemnes. C'est-à-dire qu'ici, les agresseurs, c'est-à-dire nous tous, hein, et moi le premier, bien sûr, ne peuvent pas ne pas subir les effets collatéraux de cette guerre dont nous sommes à la fois les agresseurs et les victimes. Donc nous n'avons pas d'autre choix que d'y faire face. Et c'est effectivement ici que le génie humain doit se manifester s'il existe.
Jacques Attali.
Pour le plaisir de la conversation, je vais essayer de manifester un point de désaccord. Même si je suis d'accord sur tout ce qui a été dit, en particulier ce que vous appelez réification, moi j'appelle ça artificialisation de la nature, et qui me paraît vraiment la dimension majeure du moteur de la condition humaine, avec les tragédies que ça entraîne. Le point de désaccord, pour le plaisir de la conversation, c'est que je crois quand même qu'on a intérêt, je dirais cyniquement, nous qui sommes dans le même état d'esprit à l'égard de ce qu'il convient de faire, de passer par ce que j'appelle l'altruisme intéressé. C'est-à-dire de montrer à ceux qui ne sont pas convaincus que c'est leur intérêt. Et que basculera après de l'altruisme intéressé à l'altruisme tout court. C'est quand les gens auront compris que l'altruisme leur est utile, qu'ils vont tenter l'altruisme, et ils vont découvrir ce que vous disiez tout à l'heure à la tribune, très bien. C'est magnifique d'être altruiste sans être intéressé. C'est magnifique de l'être en soi, parce qu'on y trouve une gratification extrême. Mais je crois que le point de passage pour des gens qui sont intoxiqués par l'égoïsme, par le narcissisme, par l'obsession du soi et de l'instant, le fait de passer par leur dire « c'est votre intérêt de le faire », permet de gagner un temps dans la manœuvre et de les convaincre.
Mais ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, cette question cynique qu'on peut nous poser parfois. Bon, finalement, si les baleines disparaissent, qu'est-ce que ça peut me faire? En fait, la réponse est, vous ne serez sans doute pas là pour voir un monde sans baleines. Voilà. Parce que si l'océan meurt, nous mourrons. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que c'est bien aussi de désutilitariser le discours.
Il ne faut pas les perdre en route.
Mais comment est-ce qu'on fait pour créer justement cette altérité intéressée?
C'est très difficile. On pourrait facilement être pessimiste. Si on prend le domaine de la mer que j'ai un peu étudié récemment, il faut des réformes tellement gigantesques à l'échelle de la planète. Tellement gigantesque. Il faudrait créer des institutions, il faut créer des interdictions, il faut un gouvernement mondial. On ne s'en sortira pas sans ça. Mais toute l'histoire humaine nous apprend qu'on fait les choses après la catastrophe et pas à la place.
Oui, mais alors vous savez que pour la mer, justement, la France a une place de choix puisqu'on est le deuxième territoire bien maritime sûr. Au monde, le seul pays à être présent dans tous les océans de la planète. Donc ce que décide la France dans ce domaine peut changer la donne.
Peut être en tout cas très important.
Alors vous qui conseillez par exemple...
Non, je ne conseille personne.
Non, vous ne conseillez personne, mais ce forum a lieu quand même sous le haut patronage d'Emmanuel Macron.
Les
champions de la Terre selon l'ONU.
Ce forum ne l'engage pas.
Non, mais vous avez quand même, on le sait, des portes ouvertes dans certains endroits.
Vous voyez, je parle à la cantonade aussi.
Vous avez l'impression que ce discours peut rentrer justement dans certains palais, pas qu'en France d'ailleurs.
De plus en plus. Je suis obsédé par une parallèle. Qui est ce qui s'est passé dans les années 30 ou à partir des années 20, quand un monsieur qui s'appelait Hitler a commencé à apparaître. Wow, ça n'a aucune importance, c'est un clown, ça ne compte pas. En 1933, il prend le pouvoir. Wow, ça ne va pas durer 3 semaines, ce n'est pas grave. Et puis on voit, hein, si on avait attaqué l'Allemagne en 1935, on n'aurait pas eu la discussion parce qu'il n'avait pas d'armée, et pareil jusqu'en 1939. Toute proportion gardée, les 50 millions de morts de la Seconde Guerre mondiale ressemblent aux N millions ou milliards de personnes qui peuvent mourir à cause de notre même incurie, aveuglement à l'égard des enjeux. Nous sommes confrontés à la même procrastination, aveuglement, souci de ne pas voir les enjeux. Et cet exemple de ce qui s'est passé au XXe siècle avec la montée progressive du totalitarisme qui a conduit à un cataclysme, on le voit aujourd'hui à une proportion bien plus grande. Hitler, l'Hitler, c'est nous. C'est nous qui sommes en train de détruire. C'est donc pour ça que c'est plus difficile. Parce que nous sommes tous une petite portion de l'Hitler du XXIe siècle. Donc c'est un enjeu plus difficile. Mais il faut se rendre compte que l'humanité a toujours réglé les problèmes après les catastrophes. La question, c'est de savoir si on sera encore là après la prochaine catastrophe. On est encore là après la Seconde Guerre mondiale. On peut se demander si l'homme est encore présent en tant qu'espèce humaine après ce qu'il a fait pendant cette période, mais on est encore là. Aujourd'hui, c'est le même enjeu. Il faut régler vraiment le problème avant la catastrophe, parce qu'après, on ne pourra sans doute plus.
Mais Aurélien Barreau, les scientifiques nous disent on a 10 ans pour agir.
Non, mais ça, c'est complètement bidon. 10 ans pour agir, c'est faux. Tout dépend, il faut finir la phrase. Il nous reste 10 ans pour... Pourquoi ? La vie sur Terre continuera. Moi, j'ai aucun doute que les scorpions se porteront très bien, quoi qu'il arrive. Et je pense même que l'humanité s'en sortira. On trouvera toujours un très petit nombre de gens très riches pour se surprotéger et vraisemblablement trouver des moyens ultra-technologiques pour s'en sortir. Donc la question n'est pas de savoir est-ce qu'il va y avoir ou non lieu à la catastrophe. De toute façon, il y aura des catastrophes. Ça, c'est déjà le cas. Un enfant meurt de faim toutes les 5 secondes en ce moment. La catastrophe est en cours, quelque part. Ça, c'est pas directement lié, d'ailleurs, au réchauffement climatique. C'est plutôt lié aux enjeux géostratégiques. Global, voilà, exactement. Mais, si vous voulez, la question n'est pas de se dire est-ce que le basculant va avoir lieu ou non. La question est simplement de se dire jusqu'où est-on prêt à aller dans l'ignominie. Et ça, c'est un processus qui est continu. Donc, il n'y a pas réellement de point de bascule. Et je réfute cette idée qu'il y a un temps limité avant un effondrement.
Jacques Elie, on doit vous libérer.
Oui,
parce
je vous
que
laisse continuer sans moi, parce que je dois retourner.
Juste une dernière question. Il y a aussi un enjeu social et éthique fort, parce qu'on voit les inégalités monter dans le monde. Là, on est à Paris, on parle en effet d'extinction du vivant, mais il y a des pays c'est de plus en plus compliqué, notamment en Afrique.
C'est ça la grandeur de ce concept d'économie positive. C'est qu'en fait, il y a 3 domaines qui peuvent être contradictoires. L'écologique, le social et le démocratique. Et aujourd'hui, la crise des Gilets jaunes, par exemple, a montré... ce qui se passe en Chine aujourd'hui le montre encore, c'est qu'il peut y avoir une contradiction entre le social et l'écologique. Après tout, réduire augmenter le niveau de vie des gens, ça réduit la pauvreté, mais ça détruit tragiquement la nature. Donc la clé aujourd'hui, c'est comment démocratiquement concilier les objectifs sociaux et écologiques. Et ça suppose non pas d'arrêter la croissance ou de faire de la décroissance, ça suppose de changer profondément la nature de la production. Quelles conséquences sur la croissance, c'est secondaire. C'est la nature de la production qui doit être socialement et écologiquement juste en même temps. Et ça, c'est des transformations immenses.
Pour relocaliser ?
Bien sûr, c'est une des dimensions. Il faut relocaliser, il faut se comporter de plus en plus dans les exigences de la nature. Et c'est d'immenses chantiers, d'immenses chantiers.
Merci beaucoup d'être venu nous voir. On continue l'émission sans vous. Bonne poursuite de forum. On fait une petite pause musicale et on se retrouve juste après.
Jalousie, jalousie. Nuance avec parano.
de pas grand chose, mais pourquoi s'entremêler entre lui et moi? C'est plutôt déplacé et frustrant, car jalousie, ton nom est bien trop joli.
Des questions, des réactions? Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI. Nous sommes installés au ministère français des Affaires étrangères dans le centre de Paris à l'occasion de la troisième édition du Forum de l'économie positive présidé par Jacques Attali. Cette troisième édition est sous le thème de l'engagement, comme le prouvent nos invités. Jacques Attali nous a quittés puisqu'il avait d'autres obligations. Hugo Viel, vous avez 21 ans, vous êtes en école d'ingénieur et vous mobilisez avec d'autres les jeunes collégiens, lycéens, étudiants tous les vendredis dans ces manifestations pour le climat. Vous êtes aussi secrétaire général de Climates. Comment est-ce que vous réagissez au propos de Jacques Attali qui a l'air d'avoir pris conscience de l'enjeu?
Oui, c'est ça qui est rigolo, c'est que quelqu'un comme Jacques Attali, qui pourrait avoir un discours que peu de personnes ont parmi les décideurs politiques, qu'il a souvent suivi et poussé dans le dos, la présence des grandes entreprises aujourd'hui qui viennent nous dire qu'en fait, ce qu'elles font, bah, elles s'engagent et elles vont réussir à changer le modèle. Mais comparé à l'urgence dans laquelle on est, est-ce que avoir des grandes entreprises ou des personnes qui sont toutes les mêmes depuis 10, 20, 30 ans, nous expliquer que voilà, on va changer le monde et ça va bien se passer parce que nous, on est là, on a les choses bien en main. Donc, moi, je ne crois pas trop que le discours soit en cohérence avec les actes aujourd'hui. Et c'est ça qui chagrine en fait un peu et qui même au-delà de ça, qui met en colère, c'est que ça, on l'a partout. On a des personnes qui viennent nous dire que la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est pas la bonne, qu'on augmente les inégalités, qu'on est en train de détruire la nature. Et que,
sur le constat, tout le monde est d'accord.
Sur le constat, tout le monde est d'accord. Sur le fait qu'il faut agir, tout le monde est d'accord. Mais quand il faut passer à l'action, là, c'est plus compliqué. Et c'est un peu ce qui se passe avec la France, en fait. Aujourd'hui, hier, la COP25 a débuté. La France a toujours eu beaucoup d'ambition au niveau international. Mais quand on voit tout ce qui pourrait être fait au niveau national, il y a encore une dissonance en fait entre ce qui est promu à l'international et ce qui est fait au niveau national. Les ambitions ne sont pas toujours les mêmes pour les autres pays que ce qu'on nous implique à nous-mêmes. Donc c'est tout ça, c'est la cohérence entre les discours, les actes, et du coup, quelqu'un comme Jacques Attali a ces si belles idées de remettre la nature au centre et de désartificialiser la nature, comme il le dit si bien, faisons-le. Et bien sûr, c'est très compliqué, bien sûr, faut inclure tout le monde dedans, mais c'est pas juste en le disant que ça va se faire.
Lamia Essamlali, ça fait 10 ans que vous êtes mobilisée, même plus, sur les enjeux de biodiversité marine. On voit petit à petit, là aussi, que ça se dégrade. On voit que la surpêche fait des ravages. On voit qu'il y a de moins en moins de mammifères. On voit maintenant des zones dans l'océan où il n'y a plus d'oxygène. Enfin bon, on pourrait lister comme ça la mauvaise santé de l'océan. Et comment est-ce que vous réagissez à ce que dit Hugo Viel ? C'est vrai, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord sur le constat, mais quand il s'agit de passer à l'action, on assiste encore à des massacres de dauphins ou à des chasses à la baleine aujourd'hui ?
En fait, pour ce qui est de l'océan, en fait, tout le monde n'est pas d'accord sur le constat, et tout le monde n'a pas conscience du constat et tout le monde n'a pas bien identifié les menaces. Parce qu'effectivement, on a eu beaucoup de tapage médiatique sur le Japon qui, soi-disant, reprenait la chasse baleinière commerciale, alors que dans les faits, il va tuer moins de baleines, il va en tuer 237 de trop, mais c'est moins que ce qu'il en tuait sous le prétexte scientifique. Aujourd'hui, c'est pas les harpons explosifs qui tuent le plus de baleines. D'ailleurs, on ne peut rien faire contre le Japon qui va tuer les baleines dans ses eaux territoriales. La communauté internationale n'a déjà rien fait quand ils l'ont tué dans un sanctuaire international baleinier. Donc autant vous dire qu'il ne va pas aller embêter le Japon chez lui. Troisième puissance économique mondiale, je le rappelle. Donc personne n'a envie de s'embrouiller avec le Japon. Aujourd'hui, ce qui tue le plus de baleines, c'est la pêche. La pêche, les filets de pêche, en fait. C'est le poisson que tout le monde mange, que nous mangeons.
Quand vous dites à Jacques Attali, la France a le deuxième espace
mais
maritime au monde.
Je lui ai tendu une perche là-dessus, justement.
Et qu'il parce ne que... rebondit pas oui, mais en disant que... « Oui, je vais aller voir Emmanuel Macron et lui dire qu'en effet, ça serait peut-être bien de se bouger sur ce sujet. » Comment vous réagissez ?
Moi, je ne suis pas venue ici en attendant ça de lui. Donc, je ne suis pas déçue. Je n'ai jamais d'expectatives, d'attente en fait. Moi je viens pour donner un constat, justement j'essaie de donner le constat le plus juste possible et surtout qu'on identifie bien les enjeux, qu'on identifie bien les menaces et qu'on hiérarchise bien les choses. Parce qu'aujourd'hui quand on a des gens qui mangent du poisson sans même se poser de questions de savoir d'où il vient et qui en même temps trouvent ça abominable que les Japonais osent tuer des baleines alors qu'ils sont indirectement complices du plus grand massacre de mammifères marins au monde. Et alors, je ne parle même pas des poissons en eux-mêmes, parce que alors, les poissons, on s'en fiche complètement. Mais aujourd'hui, par exemple, ça commence un peu à sortir dans les médias, mais les milliers de dauphins qui sont tués sur la façade atlantique française chaque année, ils sont tués parce qu'on autorise des méthodes de pêche non sélectives sur les zones habitat des dauphins. Aujourd'hui, il n'y a pas d'espèces marines protégées en France. Ça n'existe pas. Il y a une protection de papier qui n'a aucune réalité tangible. C'est comme ça qu'on se retrouve avec, par exemple, un requin renard à gros yeux qui est théoriquement protégé, interdit à la pêche, mais dont la capture accidentelle est autorisée. Or, la capture accidentelle, elle se produit des milliers de fois. Pourquoi ? Parce qu'on ne protège pas son habitat. Et quand on autorise des filets de pêche non sélectifs sur des zones où il y a des espèces protégées, forcément, on les capture. Une fois qu'on les a capturés, on se dit, on ne va pas gâcher. Franchement, c'est dommage. Donc, ça se retrouve sur les étals des poissonniers. Et en plus de ça, pour pousser le truc jusqu'au bout, parfois en promotion chez Intermarché. Les dauphins, c'est exactement la même chose qui se passe. La seule différence, c'est que Flipper le dauphin sur l'état d'une poissonnerie, ça passerait pas dans l'opinion publique. Un requin, ça passe encore. Donc là, vraiment, il faut que les gens comprennent qu'on est tous responsables. En ça, je rejoins ce qu'il disait. On est tous responsables.
Oui, mais en même temps, là, par exemple, vous parlez sur RFI. Dans tout le golfe de Guinée, il y a des milliers de personnes qui ne vivent que de la pêche et qui vous écoutent là.
Oui. On est dans le golfe de Guinée, ça tombe bien. Nous, on travaille avec plusieurs pays en Afrique pour justement les aider à protéger leurs eaux territoriales. Il y a des gens qui ont un besoin vital de manger des poissons. D'accord, c'est une minorité. Et ce n'est pas eux le problème. Le problème, c'est l'écrasante majorité de gens qui pourraient tout à fait s'en passer et qui en mangent sans même y réfléchir. Et c'est à commencer par nous. On mange. Il y a des incohérences totales. Si vous prenez les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, par exemple, sur la consommation en poisson, c'est 2 fois par semaine. En fait, vous appliquez ça à l'échelle de l'humanité, on obtient le double de ce que l'océan contient en poisson. Donc c'est complètement intenable. Donc encore une fois, c'est pas les quelques populations qui ont des terres peu fertiles et qui ont besoin des poissons pour se nourrir en tant que protéines vitales, c'est pas elles qui posent problème, c'est tous les autres, c'est les 99% d'autres, dont nous sommes les premiers.
Aurélien Barraud.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Lamia. Et en effet, je ne suis pas non plus venu ici pour quémander l'oreille d'un décideur qui, entre deux galas caritatifs, voudra bien s'occuper des petits oiseaux. Soyons un peu sérieux, d'accord ? Nous sommes face à un crime d'écocide. La vie est en train de disparaître sur Terre. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire, dans ces proportions et à cette vitesse. En 5 milliards d'années d'évolution subtile, nous n'avons jamais atteint ce niveau de catastrophe. C'est la première fois dans l'histoire peut-être de l'univers qu'une espèce induit l'extinction massive de toutes les autres. Bon, c'est quelque chose sans précédent, d'une gravité absolument extrême. Donc là, on ne joue pas. Les vilains garnements dans cette affaire, ce sont les chefs d'entreprise, hein, ce ne sont pas les militants écolos. Nous sommes les gens sérieux qui essayons d'expliquer les réalités physiques, les réalités biologiques et les réalités éthiques. Et on n'est pas du tout d'accord sur le constat. On voyait il y a quelques minutes un chef d'entreprise, manifestement très respectable, nous dire bah, « Écoutez, ça va quand même plutôt bien malgré ce qu'on nous dit. » Mais non, ça va pas bien. On vient de perdre 60% des espèces d'animaux sauvages en 40 ans. On vient de perdre 70% des insectes en 10 ans. C'est une catastrophe sans nom. Mais ils s'en foutent des insectes et ils s'en foutent des animaux sauvages. Donc évidemment, ils nous expliquent quand même les voitures électriques en ville, c'était bien. Mais non, en ville, c'est pas de voiture du tout qu'il faut faire, pas passer à la voiture électrique. Il n'a rien compris. Ils sont complètement à côté de la plaque.
Ils sont nombreux donc, encore comme ça.
Oui, mais nous sommes dirigés par des fous. Donc là, il faut à un moment quand même qu'on reprenne les rênes, non pas au nom d'une autre vision du monde, au nom d'un peu de sérieux. Il faut faire preuve d'un peu de sérieux maintenant, parce que là, ça relève limite de l'aliénation, ou en tous les cas de l'hébétude, le comportement actuel. Donc il va falloir quand même qu'on commence à comprendre ça, et effectivement qu'ensuite on discute à la marge, bien sûr, parce que personne n'a la vérité infuse, et certainement pas moi, mais il faut quand même que déjà ce constat que vous évoquiez commence à être partagé, parce qu'il ne l'est pas à l'heure actuelle, exactement comme pendant l'ère coloniale, qui d'ailleurs existe encore dans une large mesure. Tout le monde s'en foutait que les pauvres meurent dans les pays d'Afrique. C'était simplement une question pas relevante pour les puissances coloniales dominantes. Là, c'est exactement ce schème que nous reproduisons aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement une question de bonté d'âme ou d'altruisme. C'est une question maintenant d'intérêt commun. Bon, moi, je crois évidemment que quand bien même nous n'y aurions aucun intérêt, il faudrait quand même le faire. J'ai détesté tout à l'heure l'idée qu'il fallait défendre la sauvegarde des dauphins parce qu'ils pouvaient avoir des applications pour quelques crèmes ou je ne sais quoi. C'est complètement idiot. Les dauphins et les requins...
C'était prononcé ici dans ce forum.
Oui,
ça.
Les requins on va leur d'être en tant que tels. Donc on ne va certainement pas défendre leur droit à être parce qu'on pourra les utiliser parce qu'ils auront des applications pour la santé humaine. C'est un argument que je réfute radicalement. Mais tout est bon à prendre, effectivement, face à cette situation de guerre totale. Et là, je crois qu'il va falloir commencer à être radical parce que radical au sens étymologique, ça veut dire précis. Voilà. Donc soyons un peu précis. Et je rejoins pour ça l'analogie de Jacques Attali tout à l'heure. Nous sommes dans une situation critique. Il a raison. Il le sait et il faut le dire.
Radical, on peut l'être aussi dans l'action. Hugo Vielle, pour l'instant, vous avez eu des actions plutôt mesurées, j'ai envie de dire, avec des manifestations. Ça veut dire que quand on manifeste, on attend toujours des décideurs politiques, mais justement, qu'ils aient un petit peu de sérieux et qu'ils arrêtent de faire l'autruche face à la situation actuelle. On voit d'autres types d'actions, par exemple le mouvement Extinction Rebellion, qui a à peine un an et qui est déjà présent dans plus de 70 pays. On sent qu'il y a une radicalité qui monte quand même de la part d'une partie de la société qui dit ça suffit, cette arnaque gigantesque. Est-ce que vous sentez autour de vous que les jeunes se radicalisent aussi ? La colère qui monte ?
Alors déjà, avant tout, je veux dire que ce que disent Aurélien et Lamia, ça me touche énormément. Le dire comme ça, même si j'en ai conscience, le redire et l'entendre, ça fait toujours mal en fait, de se dire qu'on est aussi stupide et aussi, non mais c'est ça, c'est complètement ridicule ce qui se passe aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Et moi, ça me touche énormément. Ensuite, sur les moyens d'action, déjà, j'ai pas envie qu'on parle de la jeunesse comme un tout. Parce qu'il ne faut pas oublier que la majorité des jeunes ne sont pas engagés, la majorité des jeunes n'ont pas conscience de l'ampleur de la crise climatique, de la perte de la biodiversité, de la destruction de la nature. Et
oui, c'est important. C'est une minorité qui manifeste. Hein,
c'est, de toute façon, c'est toujours une minorité, malheureusement. Mais c'est vrai que sur les moyens d'action, en fait, il y a une large palette de moyens d'action aujourd'hui qui se développe. C'est-à-dire qu'on peut aller faire du plaidoyer un jour et le lendemain être en train de bloquer une rue ou d'être
un dépôt d'Amazon,
faire un sitting, un dépôt d'Amazon, faire un sitting devant l'Élysée ou autre. Et en fait, il y a besoin de tous ces moyens d'action. Parce que d'un côté, on a besoin de mettre une pression radicale dans la rue. On a besoin de bloquer parce que vraiment, enfin, on ne peut pas continuer à laisser faire. Et comme on dit, c'est complètement stupide ce qui se passe aujourd'hui. Ça n'a aucun sens. Alors, arrêtons-le, tout simplement, parce que c'est juste... C'est un écocide. On est en train de tuer des gens, de tuer la nature et de tout simplement détruire la société aujourd'hui. C'est pour ça que je parle de créer un nouveau monde. Et ce nouveau monde, il est justement en... de se rendre compte qu'on fait partie de la nature et c'est pas les humains d'un côté, la nature de l'autre. Et justement, c'est pas on va aller utiliser les dauphins, on va les sauvegarder parce que ça nous est utile. Et
mais regardez, quand les humains essayent, par exemple, en ce moment, il y a la COP25 à Madrid. C'est l'ONU, c'est 196 pays. Ils sont plus de 25 000 là-bas rassemblés. Des conventions des Nations Unies sur le climat, il y en a depuis 1992, enfin avec la création de cette convention des Nations Unies sur le climat. On a eu l'accord de Paris en 2015, pour ne parler que du climat. On a des organismes scientifiques, le GIEC qui documente le climat. Maintenant, on a l'IBES qui documente la situation de la biodiversité dans le monde. Donc, on va dire qu'il y a quand même des milliers d'humains qui se mobilisent à travers le monde pour essayer déjà d'avoir un constat juste sur la situation et de faire des accords internationaux qui fassent en sorte qu'on prenne le bon virage. Mais dans les faits, depuis l'accord de Paris, les émissions de gaz à effet de serre n'ont pas cessé d'augmenter. Donc Aurélien Barraud, vous disiez il faut être sérieux. Le plus sérieux qu'on ait aujourd'hui dans l'absolu au niveau international, c'est l'accord de Paris. Hugo Viel.
Mais justement, en fait, l'accord de Paris donne un objectif, il donne un cadre à ce multilatéralisme pour les États pour aller dans la même direction. Aujourd'hui, là, la COP25, moi, j'y serai dans une semaine, justement, il finalise le rulebook. Le rulebook, c'est ce qui va dire comment on va rendre des comptes sur ce qu'on fait dans nos pays. Et en fait, l'accord de Paris n'est pas contraignant. Et c'est ça le problème, c'est que l'accord de Paris n'est pas contraignant parce que les États sont souverains. Et tant que les États n'imposeront pas chez eux la protection de l'environnement, la réduction des gaz à effet de serre, eh ben, il ne se passera rien au niveau international.
Mais parce que le niveau
international n'est pas l'échelle.
Quel homme politique va avoir le courage de dire à ses entreprises, à ses citoyens, voilà, à partir de maintenant, par exemple, comme disait Aurélien Barraud, plus de voitures dans les villes, plus d'émissions de gaz à effet de serre de la part des entreprises, ou alors vous compensez avec ce que la compensation...
Interdiction des méthodes de pêche non sélectives sur les zones habitat des espèces.
Enfin, je pense qu'on pourrait lister...
Vous avez raison. Résumons la situation. Nous sommes des petits gamins crétins dans une cour de récréation et on veut nos joujoux. Et on n'est pas prêt à perdre nos joujoux. Et donc, on préfère tous crever que d'abandonner nos joujoux. Voilà, c'est ça actuellement la situation. Mais on aurait quand même pu espérer que ces chefs d'État qui sont élus, qui sont normalement éduqués, qui sont normalement informés, aient au moins un minimum de dignité face à la gravité de la situation. Et actuellement, sincèrement, ces grandes réunions internationales relèvent quand même un peu de la tartufferie. Voilà, on n'en attend essentiellement plus rien. Et c'est un peu triste.
Alors après, on a dans les pays démocratiques les chefs d'État que l'on mérite. Ils sont élus.
Oui.
Donc, ça passe aussi bulletin de vote.
Bon, là, il y aurait beaucoup à dire, hein, quand même, sur la démocratie, l'illusion de démocratie et sur, effectivement, ce qui relève réellement du choix éclairé. Je pense que c'est des choses qui sont un peu plus compliquées que ce qui pourrait apparaître à première vue. Cela dit, c'est en partie vrai, effectivement, et c'est précisément pourquoi je suis aujourd'hui avec vous dans une émission de radio que, vraisemblablement, M. Macron n'écoutera pas, mais qu'un certain nombre de citoyens vont écouter. Et moi, je crois crois qu'aujourd'hui, nous n'avons plus le droit, en tant que citoyens rationnels, d'accorder notre confiance à quiconque ne fait pas de la préservation de la vie sa priorité. Moi, je crois que n'importe quel homme ou femme politique aujourd'hui qui ne fait pas du respect de la vie le cœur, pas simplement un petit décorum à la marge, mais le cœur de son engagement réel, et pas seulement en période électorale, est un bouffon. C'est un tartuffe, c'est quelqu'un qui ne mérite même pas que nous envisagions de lui donner notre confiance. Ça, effectivement, ça dépend un peu de nous, mais il faut aussi l'assumer. C'est-à-dire que si on le dit, il faut le faire, et si on le fait, ça veut dire qu'effectivement, un certain nombre d'indicateurs qui aujourd'hui sont considérés comme du confort, à mon avis, ce sont des indicateurs de l'ancien monde, et par conséquent, on ne perdrait pas réellement en confort à les perdre, mais il se pourrait que de façon transitoire, avant d'avoir redéfini nos valeurs, on ressente effectivement comme une perte de confort de ne plus pouvoir utiliser autant sa voiture, de ne plus prendre l'avion pour des déplacements touristiques ou ce genre de choses. Alors là, certains nous disent, mais quand même, c'est la liberté humaine qui est en question. Oui, enfin, si on crève tous, on s'en fout de la liberté. Il faut quand même aussi dire les choses un peu clairement. Tout n'est pas compatible avec tout. Alors si vous voulez avoir la liberté de tuer votre voisin, eh bien fort heureusement, la loi vous l'interdit. Vous auriez aimé le faire ? Eh bien tant pis, c'est interdit par la loi pour le bien commun. Donc de temps en temps, heureusement, la loi s'oppose à la liberté pour l'avenir, et c'est tant mieux.
Lamia Essem Lali, sur ce qu'il faudrait faire. On a dit quoi ? Des articles à faire adopter par tout le monde ?
Des articles de loi, vous voulez dire ?
Non, je ne sais pas, j'essaie de suggérer, parce que tout à l'heure vous disiez la pêche de...
Oui, bah non, mais enfin, moi je pense qu'il y a des mesures assez simple, évidente à mettre en place, qui aurait déjà un début de résultat, comme je sais pas, couper les subventions par exemple à la pêche. Aujourd'hui, on enlève les subventions au secteur de la pêche, 90% de la pêche s'effondre. Hein. C'est une économie qui
et
est maintenue.
Les subventions aux énergies fossiles aussi.
Voilà, aussi. Donc c'est maintenu artificiellement en place, c'est absolument pas viable par soi-même. Ensuite, votre question, c'était quoi ? Quelles sont les mesures ?
Qu'est-ce qui vous semble être faisable ? Vous êtes très engagé avec Sea Shepherd, vous allez au combat, j'ai envie de dire, hein, même sur les bateaux, vous faites ce que vous pouvez, vous exposez même personnellement. Mais est-ce que vous avez l'impression, malgré tout, que c'est suffisant ?
Non, c'est bien sûr pas suffisant. Nous, on n'a pas la prétention de sauver l'océan. Hein. Nous, on fait notre petite part. Voilà, on fait ce qu'on peut, et ça sera certainement pas suffisant. Par contre, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on lève aussi des lièvres. Par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une illusion aussi parfois que les choses sont gérées, que ça va mieux. C'est comme quand on a fait un sanctuaire en Antarctique. Voilà, on fait une liste d'espèces protégées. On a des aires marines protégées en France. Alors Emmanuel Macron nous a dit l'objectif, c'est de faire passer les aires marines protégées en France de 20 à 30%. Sauf qu'en fait, quand on regarde dans les faits, on a moins de 0,2% de ces aires marines qui sont réellement protégées. Donc c'est une coquille vide, c'est pour reprendre le terme d'Aurélien, une tartufferie. Donc déjà, arrêtez de faire semblant. Je pense que c'est la première chose à faire. Et puis ensuite, faire évoluer les lois dans le sens du bon sens. Donc voilà, j'en reviens à mon exemple très concret de la vie marine, mais parce qu'en plus je trouve qu'en France vraiment on est tellement on a une telle responsabilité en matière de vie marine, c'est quand même incroyable. On a cette chance entre guillemets d'avoir 11 millions de kilomètres carrés sous notre responsabilité. On peut tout changer, on peut amorcer en fait, on peut être la locomotive, et au lieu de ça, on fait tout le contraire. On est des cancres, on est vraiment des boulets. Dès qu'il s'agit de faire évoluer les lois dans le bon sens, on freine des quatre fers, parce qu'on est dans un pays qui est vraiment à la solde du lobby de la pêche. On a des présidents des comités des pêches qui relèvent
les quotas de chasse aussi, hein, parce que bon, tant qu'on y est, dévastons aussi les oiseaux, ça serait un peu dommage d'en rester au poisson. Donc c'est la catastrophe totale.
Voilà, donc...
donc de toute façon, dans cette émission, on est tous d'accord
Arrêtez
sur le constat.
Arrêtez de se mentir déjà, voilà. Je pense que c'est la première chose à faire.
C'est le livre de Jean-Marc Gancil, oui, « Ne plus se mentir », que nous avons reçu dans cette émission. Hugo Vielle, le mot de la fin peut-être.
Ouais, sur le côté politique, en fait, on a remarqué justement que, je suis tout à fait d'accord avec Aurélien, enfin, tant qu'on n'a pas des gens qui prennent à cœur la vie, tout simplement, eh ben, on ne peut pas continuer à leur confier des responsabilités. Et c'est pour ça qu'il y a des centaines, des milliers de personnes qui ont cette sensibilité qui a monté depuis des années, qui se sont conscientisées justement à ces enjeux. Et ces personnes-là, en fait, doivent s'engager, puisqu'aujourd'hui, le thème, c'est l'engagement. Du coup, ces personnes-là doivent s'engager et doivent faire passer de la politique avec un petit p à de la politique avec un grand P. C'est-à-dire comment on réinvente la société avec des gens qui sont engagés et qui ne sont pas engagés pour leur individu, mais pour la société et pour l'intérêt général. Et justement, il y a les municipales qui arrivent, et moi, j'appelle justement à ne pas laisser les grands partis qui sont là depuis des décennies continuer à mener le truc. C'est les citoyens qui doivent prendre les choses en main et qui doivent mettre les valeurs du monde de demain en avant dans ces élections.
Merci, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Aurélien Barraud, je rappelle le titre de votre livre, Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, c'est publié chez Michel Lafon. Merci à Victor Hull pour le montage de ce studio et la réalisation de cette émission. N'oubliez pas, il y a une vie après l'émission. Vous pouvez nous retrouver et retrouver nos invités en vidéo sur les réseaux sociaux ou nous réécouter en podcast. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain, même planète, même heure.
Flocking to the sea, crowds of people wait for me, seagulls scavenge, still ice cream, worries vanish within my dream.
Priorité santé.